Il y a quelques jours, dans l'Obs, l'historien Jean-Noël Jeannonet écrivait « Au cœur d'une nation, la brutalité d'une tragédie individuelle aussi bouleversante réveille toujours des sentiments qui s'enracinent dans la longue durée et ne s'expliquent bien que par elle. » Cet adage d'historien pourrait s'appliquer aux deux événements majeurs que nous avons vécus cette semaine. L'hommage national à Arnaud Beltrame, mort sous les coups d'un terroriste islamiste samedi matin dernier, et la marche blanche en souvenir de Mireille Knoll, cette vieille dame de 85 ans, morte assassinée chez elle parce qu'elle était juive. En tout cas, ce sont les accusations retenues. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité inviter aujourd'hui un historien, Olivier Christin. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Neuchâtel. Vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Et vous êtes le directeur du Centre européen des études républicaines, le CEDRE. PSL. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages. On peut en citer quelques-uns qui ont plutôt trait à ce dont nous allons parler ce matin. Il y a eu d'abord en 2009 « Confesser sa foi, conflit confessionnel et identité religieuse dans l'Europe moderne ». Alors c'est 16e, 17e siècle.
Moderne, ça ne veut dire pas d'aujourd'hui.
Oui, c'est ça, c'est pas d'aujourd'hui. Qui nous rapproche plutôt d'aujourd'hui, « Les 100 mots de la République », dictionnaire sous la direction de vous et puis de Stéphane Soulier et Frédéric Worms, paru aux éditions PUF, ça c'était l'année dernière. Oui. Et puis apparaître le 19 avril prochain, demain cette fois, La République, un livre collectif avec les contributions de Vincent Payon, d'Anne Verjus, de Quentin Skinner et d'autres encore, qui paraîtra donc aux éditions du Bord de l'eau.
Oui, donc je me rapproche du présent.
Je ne me suis pas trompé, oui, c'est présent et passé. Alors, nous allons rester dans un présent et un passé très proche avec ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que, Olivier Christin, vous verriez un point commun entre les deux événements que j'ai cités? D'un côté, cet hommage national, de l'autre, cette marche blanche. Est-ce qu'on peut les penser ensemble?
Oui, on doit les penser ensemble. Vous l'avez dit
très
juste.
On doit, non seulement on peut, mais on doit.
On peut et on doit les penser ensemble. Je pense pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a des affaires de longue durée dedans. C'est-à-dire, ces événements ne sont pas compréhensibles si on les a sous le nez et si on ne voit pas qu'ils s'inscrivent, comme le disait l'adage de Jean-Noël Jeannonet, dans une histoire longue, par exemple, de ce que c'est que l'antisémitisme et les formes historiques que l'antisémitisme a pris à travers les siècles. Et là, on voit ressurgir des formes anciennes, quasiment, d'anti-judaïsme médiéval, avec l'idée que les juifs sont riches, que les juifs vivent entre eux, et pas un antisémitisme racial 20e siècle. On voit se mélanger différentes traditions antisémites, différents préjugés antisémites, qu'on comprend dans la longue durée et qui sont inquiétants pour ça, justement. Et puis, sur le sacrifice d'Arnaud Beltrame ou le geste spectaculaire et éminemment respectable d'Arnaud Beltrame, il y a aussi une longue durée de ça. Certains le tirent, c'était la chronique qu'il y a eu juste avant, certains le tirent vers la question du martyr ou d'un geste chrétien qui en plus tombe juste avant Pâques et qui permet de réfléchir sur le sacrifice du Christ sur la croix, ou d'autres traditions qui sont des traditions de la républicaine, et par exemple toute cette question des héros romains qui était donnée en exemple dans les manuels scolaires jusqu'à la fin du 19e siècle. Et on donnait comme exemple aux enfants, vraiment dans les manuels républicains, l'exemple de jeunes ou de soldats ou de jeunes hommes nobles qui mouraient pour sauver la République, pour sauver Rome.
On va revenir d'ailleurs sur cette question de l'héroïsation du geste d'Arnaud Beltrame, Olivier Christin, mais restons un moment sur ces deux événements et ce temps d'unité ou d'union nationale, pour reprendre d'ailleurs les mots de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale mardi, on les voit aujourd'hui comme des sursauts éphémères. Et puis une semaine après, finalement, tout est rentré dans l'ordre, tout reprend son cours normal. Comment les voyez-vous aujourd'hui? Parce que c'est pas la première fois qu'on vit des sursauts d'unité nationale.
Non,
comme
c'est
ça,
pas la première fois. Alors, c'est pour ça qu'il faut penser les deux événements ensemble. C'est aussi parce qu'ils mettent en jeu cette question de politique de l'émotion. C'est plus jamais ça qui revienne à date régulière. On a l'impression que dès plus jamais ça, on en a eu beaucoup. Donc, que faire pour passer? Et c'est l'enjeu qui se présente à nous aujourd'hui, à tous. Et c'est un enjeu républicain. C'est que faire pour que le plus jamais ça de rentre dans les faits? Et que faire pour transformer l'émotion légitime de ceux qui se sentent outrés, choqués, bouleversés ou menacés par ce qui s'est passé, se transforme en réalité politique durable qui empêche que ça se reproduise. Et je pense, dans cette marche blanche, par exemple, qui est un événement, qui est une forme relativement récente de mobilisation, la marche blanche, qui n'est pas une forme classique. Je pense à ces propos, je trouve, des années 30 et qui me paraissent avoir une actualité très forte, de Martin Niemöller, un des pères fondateurs, on dit, de la CIMAD, qui écrit dans les années 30. Il écrit en 1935. Et il dit, si ma mémoire est bonne, je cite pas exactement, « Lorsqu'on a arrêté les communistes, je me suis tu. Lorsqu'on a arrêté, c'est les nazis. Lorsqu'on a arrêté les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit. Lorsqu'on a arrêté les juifs, je suis resté chez moi. Et lorsqu'on est venu m'arrêter moi, il n'y avait plus personne pour me défendre. » Et je pense que c'est ça que nous avons devant nous. C'est-à-dire, oui, on peut se taire. On peut ne rien dire en pensant que ça ne me concerne pas, ou c'est pas ma communauté qui est visée, ou c'est pas moi. C'est une fois des gestes contre les homosexuels, une fois des gestes contre les juifs, une fois des attaques. Mais tout cela nous invite à prendre conscience qu'il faut une mobilisation, et que cette mobilisation, c'est maintenant, plus tard, il pourrait être trop tard.
Marche blanche, disiez-vous, malgré tout, Olivier Christin, marche blanche avec menace de division. On a vu la droite attaquer le gouvernement sur la politique de sécurité, on a vu le CRIF interdire à certains courants de participer à cette marche blanche. Alors, c'est peut-être difficile, encore plus difficile aujourd'hui, de maintenir les bases de ce que vous appelez, de ce que beaucoup d'ailleurs appellent le vivre ensemble, avec toutes ces tensions, tous ces conflits qui réémergent régulièrement.
Oui, absolument, c'est un des vrais enjeux, c'est une des vraies difficultés qu'on a, c'est-à-dire devant ces types d'attaques et ces attaques, et qui portent sur notre manière de vivre ensemble, sur la possibilité de vivre ensemble, sur ce qui fait de nous, de manière très ambitieuse et en même temps très, très théorique, des citoyens égaux en droit, vivant dans la même république, bénéficiant des mêmes protections. Ces attaques portent sur ça, sur ce qui nous tient, ce qui nous lie. Comment faire pour, malgré nos différences, préserver ça, et comment faire pour que ce soit pas les plus radicaux de chaque bord qui parlent pour tout le monde? C'est un peu ça le défi. C'est-à-dire, on est mis au défi des plus violents, des plus véhéments, des plus radicaux, et malheureusement de ceux qui pensent que l'intolérance est une vertu, que c'est la preuve de leur conviction, c'est la preuve de la solidité de leur conviction, et que plus ils sont intolérants, plus ils montreront qu'ils ont quelque chose, qu'ils ont de la force en eux, qu'ils ont une vraie colonne vertébrale idéologique. Comment lutter contre ça? Et c'est un des vrais soucis. Peut-être qu'on le dira tout à l'heure à propos de l'extrait musical que
ouh là là, quand vous y allez, nous n'y sommes pas, nous n'y sommes pas. Vous allez beaucoup trop vite.
Sur cette question de comment faire en sorte que ce ne soit pas les bouts de feu qui parlent pour tous, et que ça soit plutôt ceux qui veulent maintenir des formes de vivre ensemble et de tissu social.
Olivier Christin, vous disiez que la marche blanche était une forme de cérémonial, de rituel relativement récent. Alors moi, j'écoute comme parole d'évangile la parole de l'historien. Ce n'est pas tout à fait le même cas avec l'hommage national qui a été rendu à Arnaud Baltram, avec convoi funéraire du Panthéon aux Invalides, lieu éminemment symbolique, bien sûr, lieu d'histoire, avec le drapeau tricolore sur le cercueil, avec le discours d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, célébrant la République et ses valeurs. Les symboles font aussi force de loi, j'allais dire, mais disons que c'est ce qui renforce aussi le socle de notre cohésion. C'est important d'avoir tous ces cérémoniaux.
Absolument, on pouvait pas
communion
laisser...
républicaine, voilà, d'ailleurs, on a entendu. Hein.
On a entendu communion républicaine, je crois que c'est le titre d'un éditorial, communion républicaine. Le discours du chef de l'État mélangeait aussi différentes références au don de soi, à l'héroïsme, au sens du devoir, à l'hommage national. Mélangeait ces références, oui, c'est important d'avoir ce type de commémoration. On ne peut pas laisser des événements de ce type, et on ne peut pas laisser sans réponse des événements qui sont aussi des événements réels, avec des victimes, des événements tragiques, mais ce sont aussi des événements symboliques qui mettent en question les institutions républicaines, l'idée même de société multiculturelle, l'idée même de tolérance. Donc il faut une réponse qui soit aussi une réponse symbolique et montrant qu'est-ce qui nous fait vivre ensemble.
Que pensez-vous des références, alors si cette fois vraiment spécifiquement historiques, il y a des références à l'histoire de France, à l'histoire de la République, à la résistance, dans le discours d'Emmanuel Macron, je le cite, avec lui c'est Arnaud Baltram, surgissait du cœur du pays l'esprit français de résistance. Il a convoqué Jean Moulin, Pierre Brossolette, les martyrs du Vercors, les combattants du Maquis, les ombres chevaleresques, des cavaliers de Reims et de Patay. Alors en plus, il faut être quand même assez fort en histoire pour comprendre toutes les références. Les héros anonymes de Verdun et des Justes, les compagnons de Jeanne et ceux de Kieffer, Jeanne d'Arc et le général de Gaulle. Pourquoi Et comment comprendre ces références à l'histoire ? Là aussi, c'est inscrire dans le temps long ?
Oui, c'est inscrire dans le temps long. Et puis, c'est une double manœuvre que moi, je trouve plutôt intéressante. C'est une manœuvre d'éviter de laisser cette question de l'héroïsme et de l'héroïsme patriotique, de la défense, de la patrie, à l'extrême droite, et à une extrême droite nationaliste qui pourrait en faire un usage, Jeanne d'Arc, qui pourrait en faire un usage et récupérer des figures qui ne lui appartiennent pas, et notamment les figures de résistants, pour les utiliser à d'autres fins. Et c'est aussi, je pense, évider de l'intérieur un discours qui pourrait rappeler, éviter ce discours de l'extrême droite en rappelant le rôle considérable de la résistance comme figure du dévouement, comme figure du don de soi. Et ça n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le discours de Pétain du 17 juin qui dit « je fais don de ma personne à la France ». Pétain ne donne rien. Il donne son nom pour ensuite signer une capitulation et collaborer avec l'occupant. Ceux qui donnent qui font don de leur vie à la France, ce sont les résistants, c'est pas Pétain. Et ça, je trouve très bien de rappeler ça dans le discours d'Emmanuel Macron, et je trouve très bien cette volonté de pas abandonner le patriotisme au discours nationaliste d'extrême droite. Il n'y a pas de raison. Le patriotisme n'est pas une valeur d'extrême droite, il l'a pas été historiquement. Les patriotes, c'était les révolutionnaires et pas les immigrés. Et il a parfaitement raison. Jaurès était un patriote. Il a raison de faire ça, et je trouve les références par moments très savantes et assez bien choisies pour éviter cette
récupération. Vous les connaissiez toutes, vous, les références ?
Alors,
rassurez-nous,
pas l'historien. Alors, bon, moi, je connais mieux les références du XVIe siècle, peut-être, c'est ça. Historien moderniste. Non, pas toutes. Les cavaliers, c'est une référence assez...
Les ombres chevaleresques des cavaliers de Reims et de Patay.
Oui, les cavaliers de Reims et de Patay. Heureusement qu'il n'y avait pas un quiz sur le champ, je pense que j'aurais eu une mauvaise réponse.
Bon allez, on ne va pas faire un cours d'histoire d'ailleurs ce matin, mais je voudrais qu'on insiste sur cette figure donc de héros. Figure d'Arnaud Beltrame érigée en exemple sublime, ancrée dans l'histoire de France. Un acte héroïque qui permet peut-être l'union de la nation. On a quand même l'impression, Olivier Christin, avec cette façon qu'on a eue toute la semaine, effectivement, de célébrer cet héroïsme, on a quand même l'impression que la société va mal. D'ailleurs, si je reprends le discours d'Emmanuel Macron, il dit le geste d'Arnaud Beltrame a conjuré l'esprit de renoncement et d'indifférence, on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, qui parfois menace. Il a montré que le socle vivant de la République, c'est la force d'âme. On a l'impression que c'est un peu la méthode Coué quand même. Il faut, c'est parce que ça va mal qu'il faut réaffirmer.
Il y a peut-être un peu de méthode Coué, mais il y a aussi, il me semble, et la question d'Arnaud Beltrame se pose dans ces termes-là, la volonté de réhabiliter un discours sur la vertu, la vertu civique et la vertu républicaine, qui est un discours qui est difficile à tenir. La vertu paraît renvoyer la morale, un peu de boy scout, un peu gnangnan, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et de ce point de vue-là, le chef de l'État s'intéresse à la philosophie, à l'histoire de la pensée, il le dit, et on le voit dans les discours. De ce point de vue-là, ça rime à une très très longue tradition de pensée, et de pensée républicaine, sur la République, c'est le régime de la vertu. Il faut des citoyens vertueux, puisque c'est le gouvernement de tous, c'est le gouvernement du plus grand nombre. Donc c'est un gouvernement qui ne peut pas reposer seulement sur la peur, seulement sur l'intérêt, seulement sur la terreur, ou seulement sur les honneurs, à la différence de la tyrannie ou à la différence d'un régime oligarchique, etc. Il faut des citoyens vertueux pour que ce régime de tous, pour tous, fonctionne. Donc on trouve ça déjà chez Aristote, on va trouver ça dans la philosophie des Lumières, on va trouver ça dans les catéchismes républicains du 19e siècle, on trouve ça dans les manuels scolaires. Donc ça rime un peu à ça, et puis moi je trouve que c'est important de rappeler l'exigence de vertu, surtout dans un moment où on discute de la moralisation de la vie politique, de la réforme des institutions, de la lutte contre les conflits d'intérêts, et qu'on a un contre-exemple tous les jours, avec des rebondissements avec Donald Trump quand même, où le régime de la vertu paraît pas extrêmement bien établi là, et la volonté de donner des figures positives d'identification, pas forcément des figures de la violence, des figures du refus de la violence.
On parle des valeurs de la République, on peut citer les mots de la devise républicaine, il a été rappelé cette semaine, la liberté, il combattait pour la liberté, pour notre liberté, on a rappelé la fraternité, on a moins parlé d'égalité, peut-être parce que le troisième événement de cette semaine a été éclipsé par les deux autres, et pourtant il est de taille. Je veux parler de la démission du maire de Sevran, Stéphane Gatignon, qui a protesté contre l'insuffisance des politiques publiques en banlieue. Olivier Christin, vous avez un avis sur la question ?
Alors, Évidemment, ça pose la question de l'égalité, ça pose la question de l'égalité des territoires, et ça pose la question de ce qu'il y a derrière notre devise. C'est-à-dire que c'est une devise extrêmement ambitieuse, extrêmement noble, dont l'histoire vient d'être faite par Vincent Peillon dans le livre qu'il vient de sortir au Seuil sur l'histoire de la devise, qui remonte à Robespierre et qui n'est pas du tout ce qu'on faisait dire à cette devise, qui a été parfois identifiée soit tardivement, soit à la terreur, à une volonté jacobine de centralisation et d'uniformisation, etc. Et au contraire, une devise très très ambitieuse et très intéressante. Mais elle pose le problème du contenu concret, c'est-à-dire l'égalité politique qui fait de tous les citoyens des rois en politique, s'accompagne de l'inégalité réelle des conditions qui fait de certains citoyens des esclaves ou des serfs ou des gens dans des situations d'une précarité considérable. Peut-on maintenir l'idéal républicain lorsque les inégalités s'accroissent? C'est bien le problème. Ou lorsque la liberté est menacée? Voilà, c'est bien le problème.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Il est 8h31 sur France Culture et c'est l'heure de la revue de la semaine par Mélanie Chalandon. Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline.
Alors on commence avec le rapport Villani sur l'intelligence artificielle annoncé depuis des mois. Il a finalement été rendu ce mercredi.
Et qu'on la craigne ou bien qu'elle nous fascine, l'intelligence artificielle est inéluctable. C'est le message en substance que le député et mathématicien Cédric Villani a martelé cette semaine dans la presse. C'est une question de souveraineté nationale, explique-t-il dans La Croix, car brimer son développement reviendrait à nous rendre dépendants de ceux qui la développent. L'exploitation des données, leur utilisation sera bien encadrée, promet-il dans Le Monde, tout en détaillant un projet d'interconnexion de nos données de santé. Peu rassurant a priori, mais le député évoque la création d'un comité d'éthique. La destruction de l'emploi? Oui, peut-être, concède-t-il, mais dans les métiers liés au domaine, ça va exploser, tente-t-il de rassurer dans Les Échos. Alors pour les sceptiques et pour ceux qui veulent réfléchir aux enjeux éthiques de cette révolution qu'on nous annonce, on lira avec intérêt le dossier de Philosophie Magazine « Comment sauver l'intelligence naturelle ?» se demande le journal. À l'heure où les machines pourraient réfléchir aussi bien que nous, une course-poursuite que nous relate le philosophe Michel Elchaninoff, où l'on réalise que l'intelligence artificielle sera bientôt capable de faire plus choses à la fois, d'apprendre toute seule, de s'adapter, d'inventer et peut-être même d'avoir conscience d'elle-même. Autant de facultés proprement humaines, mais plus uniquement. Par exemple, elles peuvent déjà appréhender le contexte émotionnel de leurs échanges avec des humains à partir de la reconnaissance de nos expressions du visage. On apprend aussi dans le dossier que Facebook a créé récemment une machine capable de créer un tableau à partir de différentes toiles qu'elle aura observées. Un mélange par exemple d'impressionnisme et d'art abstrait. Et elle le fait plutôt bien, même si elle est incapable d'expliquer pourquoi elle a réalisé ce tableau, ni d'en saisir la signification.
La révolution de l'intelligence, ça sera d'ailleurs le sujet du forum France Culture organisé aujourd'hui toute la journée de 10h à 18h au grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. On poursuit, Mélanie, avec un acte proprement humain, la provocation.
Oui, une provocation en particulier, celle commise par Serge Gainsbourg le 11 mars 1984 sur le plateau de l'émission 7 sur 7 où il brûla en direct un billet de 500 francs. Dans une tribune parue dans Libération hier, Emmanuel Thibloux, directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, revient sur la signification de ce geste. Geste qu'on a longtemps associé à une dénonciation de la politique fiscale socialiste, rappelle-t-il. Le racket des impôts, je vais vous dire ce que c'est, avait déclaré Gainsbourg avant de passer à l'acte. Mais ce qui retient l'attention d'Emmanuel Thibloux, c'est la dimension presque philosophique du geste. Je cite, celle de déposséder en une poignée de secondes des millions de téléspectateurs d'une richesse qu'il n'avait jamais eu. Avec Gainsbourg, on n'est pas dans le figuré ni dans la fiction, mais dans le réel. On peut y voir aussi, selon Emmanuel Thibloux, un geste qui révèle l'envers d'une industrie du spectacle en plein essor et dont il est une des principales figures. À ce titre, nous pouvons voir en lui un moraliste, soutient l'auteur. Un moraliste d'un genre paradoxal qui démasquerait les vices de son milieu et de son temps, tout en les incarnant. Lundi 2 avril, le chanteur disparu en 91 aurait eu 90 ans.
On termine avec le débat autour de la sélection à l'université à l'origine de nombreux mouvements de blocage cette semaine dans plusieurs facs. On n'en a pas beaucoup parlé.
En France, vous le savez, il suffit de décrocher son bac pour pouvoir s'inscrire à l'université. Une spécificité, voire une absurdité française pour l'historien Antoine Compagnon qui nous relate dans la revue Le Débat les origines de l'absence de sélection. C'est que depuis le mois Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, le baccalauréat était un diplôme du supérieur, le premier grade universitaire. Et c'est lors de la suppression des universités en 1793 par la Convention qu'il fut en quelque sorte rapatrié dans les lycées tout en conservant son grade, d'où l'imbrication et la confusion dont je vous passe tous les détails historiques et qui n'a d'ailleurs longtemps pas posé de problème tant, je cite, la réussite au baccalauréat était contrôlée de manière malthusienne. Mais aujourd'hui, avec 80% de bacheliers par classe d'âge, l'université explose. Le vrai scandale pour Antoine Compagnon, ce sont ces 60% d'étudiants qui échouent en première année de licence. Une sélection par l'échec, dit-il, et un énorme gâchis humain et social, et dénonce-t-il tout en saluant, on s'en doute, cette nouvelle voie, loi ORE, Orientation et Réussite des étudiants, qui introduira désormais des conditions d'accès à l'université. Alors le mouvement prendra-t-il ? Un peu tôt pour le dire, mais il en prend le chemin, constate la spécialiste des mouvements étudiants Julie Lemazier dans Mediapart. Normalement, la sélection à l'université est une ligne rouge, rappelle-t-elle, mais on a laissé pourrir le système jusqu'à temps qu'il l'ait rendu acceptable.
Olivier Christin, historien, vous écoutiez avec beaucoup d'intérêt et d'attention cette revue de la semaine. Peut-être une réaction sur les universités ?
Oui, une réaction sur les universités.
Ce que dit Antoine Compagnon, par exemple.
C'est une question d'une actualité qui, à mon avis, est en train de prendre et de prendre de l'ampleur. Alors, où est le vrai scandale ? Est-ce que le scandale, c'est 60% d'échecs dans le premier cycle d'étudiants qui arrivent à l'université sans y être vraiment encadrés et sans y être vraiment préparés ? C'est un scandale et un énorme gâchis, puisque que certains perdent les plus belles années de leur vie, les années de formation, les années de jeunesse, et en sortent amers, déçus, humiliés. C'est un scandale, c'est terrible. Antoine Compagnon a parfaitement raison. Ou est-ce que le scandale, c'est 50 ans après 68, de voir que le constat de Pierre Bourdieu sur les héritiers est plus vrai que jamais. Il n'y a jamais eu aussi peu d'enfants des classes populaires dans les filières d'excellence, l'ENA, Normale Sup, Polytechnique, les grandes écoles.
Alors, le scandale est où, pour vous ?
Les deux. les deux.
Nous voilà bien.
On a ce système, une spécificité française. Antoine Compagnon parle du bac, mais il y a une spécificité française. On est les seuls au monde à avoir ce système d'un côté les grandes écoles et de l'autre côté les universités qui produit des effets absolument désastreux d'endo-recrutement des élites, de reproduction sociale des élites terribles et qui produit un déséquilibre dans le coût des étudiants par an. Un étudiant de grande école coûte 10 fois plus par an qu'un étudiant d'université.
Vous étiez vous-même, Olivier Christin, président d'université à Lyon 2 pendant un an, il y a 10 ans. Est-ce que vous avez aussi enseigné à Rouen, à l'université de Nancy 2. Vous connaissez donc bien le monde universitaire. Vous êtes chercheur vous-même. Je rappelle que vous dirigez aujourd'hui le CEDRE, le Centre d'études. Vous allez m'aider parce que je n'ai pas le papier sous les yeux.
Le Centre européen des études républicaines de l'université PSL.
Voilà, comme ça vous l'avez dit, justement, de l'université PSL, voilà, qui est dit aussi. Est-ce qu'en 10 ans, pour vous, la situation s'est dégradée ?
Oui, absolument. En fait, les universités sont dans une période de fragilité, de recomposition, de troubles, de difficultés et d'agitation plus ou moins forte, légitime depuis les grandes réformes de 2007-2008. C'est un cycle. On aurait pu imaginer d'ailleurs un colloque ou un moment de réflexion comme le forum de France Culture sur les 10 ans de la LRU. Et ce qu'on voit avec ce grand bouleversement de l'autonomie des universités 2008-2009 et le passage à l'autonomie d'établissements autonomes, c'est un problème récurrent de gouvernance des universités et de démocratie interne et un problème de moyens. Depuis 10 ans, si on prend les statistiques d'Eurostat, c'est-à-dire pas les statistiques françaises, prenons les statistiques européennes, ce qu'on voit, c'est que les dépenses en termes de pourcentage du PIB par habitant, les dépenses pour l'enseignement supérieur et la recherche en France baissent de manière constante depuis 2008. Réformons, modernisons, transformons les universités, adaptons-les aux défis mondiaux. Pourquoi pas ? Mais avec des moyens au moins constants, ce qui n'est pas le cas. Et puis on peut prendre une deuxième statistique, qui en dit beaucoup sur les 60% d'échecs, c'est toujours Eurostat. Si on prend le ratio nombre d'étudiants, personnel académique, academic staff, professeur, secrétaire, maître assistant, etc., maître de conférence, assistant, ATER, eh bien, ce qu'on voit, c'est que la France se situe dans un niveau qui est celui de la Lituanie, à peu près. C'est-à-dire, on est loin derrière l'Allemagne, assez loin, très loin derrière la Suède et les pays du Nord, en termes de combien de personnes pour encadrer les étudiants. Il y a un problème d'encadrement, d'où ces amphis surchargés avec des étudiants. Le taux d'échec de 60%, c'est aussi un problème d'encadrement, de combien de personnes pour prendre en charge les étudiants.
La sélection, c'est une bonne idée ?
La sélection, c'est poser le problème, peut-être rentrer par la petite porte. C'est-à-dire le vrai souci, c'est le souci des moyens. C'est-à-dire le souci quels moyens, combien de personnel, quel type d'enseignant pour enseigner quoi. Et je crois que ça répondrait.
On agrandit, quand vous dites le souci de moyens, on agrandit les amphithéâtres pour accueillir le nombre d'étudiants dont vous parlez. On agrandit les universités, ça veut dire quoi?
Non, ça veut, alors ça veut dire des moyens.
Par rapport aux amphithéâtres surchargés dont
veut,
vous parlez.
Voilà. Ça veut dire déjà des moyens humains, des moyens de, par exemple en termes de recrutement ou en termes de consolidation des carrières des nouveaux enseignants qui arrivent, qui ont des carrières extrêmement précaires, hein, très compliquées. Les gens qui sont à terre ou demi-à terre et qui font des heures et des heures de TD mal payés, c'est compliqué. Mais il y a aussi les effets de la semestrialisation. Quand on dit à des étudiants qui viennent de bac technique ou de bac pro, qui ne sont pas forcément formés pour le travail en autonomie à l'université, que les cours sont semestrialisés, qu'au bout de 3 mois, il y a déjà des premiers partiels, des premières sanctions, des premières évaluations, c'est très très court. Donc est-ce qu'on ne peut pas revenir sur ça? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des années de transition? Par exemple, une première année de mise à niveau. Il faudrait aussi donner du temps et des moyens d'encadrer ceux qui sont en difficulté dès le départ, et on sait qu'ils seront en difficulté dès le départ.
Olivier Christin, parmi la dizaine de facs hein, aujourd'hui bloquées en France, Tolbiac, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à Paris donc, est l'une des plus engagées. Les étudiants sont très mobilisés. Georges Haddad, le président de l'université, était l'invité des matins de Guillaume Herner hier. Il a commencé par dire que, selon lui, les étudiants avaient raison de s'inquiéter. Vous pensez comme lui ?
Oui, je pense que les étudiants ont raison de s'inquiéter. Je ne peux pas parler sur la question de la sélection. Je ne suis pas chef d'établissement, je ne suis plus président d'université. Et il y a des présidents d'université et la CPU qui font un travail remarquable. Je ne veux pas non plus avoir l'air de porter de loin un jugement. Je crois que c'est vraiment un débat très compliqué. Et c'est pas celui-là qui me préoccupe le plus. Oui, ils ont raison de s'inquiéter, et ils ont raison de s'inquiéter aussi parce qu'on voit une fragilisation de filières entières. Le mouvement prend beaucoup dans les facs de lettres et de sciences humaines, qui sont marginalisées dans les nouvelles configurations qui sont en train de se mettre en place, qu'on appelle les communs, où souvent les facs de lettres ont du mal à rejoindre les communs, ou ne veulent pas rejoindre les communs, ou s'y trouvent en position ancillaire, inférieure, avec peu de moyens. Dans certains cas, il faut dire les choses telles qu'elles sont, 80% ou 70% des moyens sont investis sur 25% des étudiants, 30% des étudiants.
On voit aussi, avec ces blocages de facultés, ressurgir, là je m'adresse aussi à l'historien que vous êtes, même si je ne vais pas remonter à l'ancien temps, au temps moderne, au pluriel, mais on voit aussi ressurgir des tensions très vives, des conflits très vifs, politiques, violents, je fais bien sûr écho notamment, hein, mais ce n'est pas le seul, mais à ce point-là ça l'est, à ce qui s'est passé à la faculté de droit de Montpellier, quand même deux professeurs mis en examen aujourd'hui, avec des hommes cagoulés, qui sont en qui ont pénétré dans l'université pour essayer d'évacuer les étudiants qui y étaient là. Ça vous rappelle des choses? Ça vous fait peur? Ça rejoint finalement le sujet dont on parlait tout à l'heure, à savoir le socle commun, le fameux vivre ensemble, qui est un terme tellement galvaudé qu'on n'ose plus le dire. Mais...
Alors, on ne peut pas se prononcer sur des affaires qui vont être instruites, mais deux professeurs en examen et les propos qu'on les a entendus tenir sont absolument scandaleux, sont absolument bouleversants. Les enseignants, les enseignants-chercheurs et les doyens ne sont pas là pour organiser des expéditions punitives sur des étudiants. Et je comprends les préoccupations des étudiants. Certaines filières, aujourd'hui, peuvent donner l'impression aux étudiants de consommer un temps fou vers un avenir professionnel très très incertain. Ils voient les moyens sont faibles. Les étudiants peuvent manifester leurs préoccupations. C'est parfaitement légitime. Et la réponse de la ministre de ce point de vue-là était claire. L'université est un lieu de confrontation et discussion, pas un lieu d'affrontement par la force. Donc oui, l'usage de la violence, là, a été absolument scandaleux dans le cas de Montpellier.
Je disais,
s'il est avéré et sous toutes les réserves, bien sûr.
Je disais, Olivier Christin, que ça nous rappelait ce que nous disions en première partie de cet entretien, notamment quant à la République. J'ai sous les yeux l'article « Université » de votre dictionnaire des 100 mots de la République, par édition oui. PUF. Et à l'article « Université » signé par Guillaume Tronchet, on peut lire « Université et République ont assurément partie liée, si ce n'est historiquement, du moins par leurs ambitions partagées. La République entend créer du commun au service du plus grand nombre, tandis que l'université, au sens étymologique du terme, aspire à regrouper l'ensemble de la communauté des maîtres et des étudiants au profit du progrès et de la diffusion des savoirs universels. Demain, la République avec une université digne de ce nom.
Demain, la République est une institution, l'université est une institution centrale de la République et du fonctionnement de la République. Et ça, on peut le dire depuis le début, dès le début, la transformation des universités d'ancien régime, de ma période, 16e, 17e, n'étaient pas des lieux de savoir, n'étaient pas des lieux de promotion sociale, c'était des lieux de protection de la vérité de la foi, notamment. Et les universités de recherche, de promotion, de formation, d'encadrement sont liées à la pensée républicaine et à la formation de citoyens capables de se repérer dans le monde et de prendre des décisions. Donc évidemment, l'université est un des lieux essentiels et il faut interdire, empêcher l'usage de la violence et de la contrainte tel que ça a été le cas à Montpellier de manière scandaleuse.
Olivier Christin, vous restez avec nous pour le dernier quart d'heure de ces matins du samedi ?
Oui, volontiers.
Merci, il est 8h45 sur France Culture. Un dernier quart d'heure qui commence par l'idée culture. L'idée culture, c'est chaque samedi une personnalité du monde des idées qui nous confie son choix d'une œuvre artistique qui, dans sa vie, l'a particulièrement marquée. Mélanie Chalandon.
Eh bien, cette semaine, c'est Evelyne Heyer que je suis allée voir. Elle est généticienne et anthropologue. Elle est aussi la commissaire de la collection permanente du Musée de l'Homme où c'est ouvert ce mercredi. Vous l'évoquiez dans vos envies du week-end.
Parce qu'on a très envie d'y aller.
Une grande exposition sur l'homme de Néandertal. Et Evelyne, hier, eh bien ce matin, nous parle d'une femme, enfin de deux femmes même, celle de l'œuvre et puis la créatrice.
Alors j'ai choisi Bloom, Nana Jaune de Nikit Saint-Phalle. C'est une énorme sculpture, très haute. Alors je me souviens plus combien de mètres elle faisait, mais au début des Champs-Élysées, on ne pouvait pas la rater. Elle est sur un pied, elle danse, elle est en maillot de bain. Son maillot de bain est de toutes les couleurs, donc elle a le corps jaune. Et elle a un maillot pétant de couleurs qui met en évidence ses formes. Un peu, je dirais, comme dans Botero, où on a vraiment des belles femmes qui ont des rondeurs très féminines. Elle a les bras grands ouverts et elle donne vraiment envie d'entrer dans la danse avec elle. Il y a eu une année en 96 où il y a plein de sculptures qui ont été mises sur les Champs-Élysées et au début il y avait cette Bloom Nana Jaune et j'ai tout de suite été séduite par cette œuvre. Pleine de joie, pleine de grâce, vraiment un énorme coup de cœur. Et en fait, j'avais déjà vu des œuvres de Nikit Saint-Phalle quand j'étais allée voir la fontaine qui est à côté de Beaubourg, la fontaine où il y a toutes les pièces de Tinguely, qui sont quand même drôles mais assez arides. Et au milieu des pièces de Tinguely, il y avait plein de sculptures très gaies et de toutes les couleurs. Et c'est comme ça que j'ai découvert Nikit Saint-Phalle. Et donc, quand la Bloom Nana Jaune a été exposée sur les Champs-Élysées, je suis bien sûr allée la voir tout de suite. Elle présente, je dirais, un peu une ode à la féminité. C'est une femme resplendissante qui a des formes, qui sort un peu des canons de beauté classiques. Donc, ce qui me plaisait, c'était cette idée de rendre beau des choses qui, dans la norme, ne sont pas forcément reconnues comme beaux. Et c'est ce qui m'a tout de suite séduit chez Nikit Saint-Phalle. Et surtout, en fait, cette femme, elle est joyeuse, elle est gaie, elle pète de couleurs, elle danse, elle est superbe. Et après, j'ai découvert à l'exposition au Grand Palais qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps sur Nikit Saint-Phalle, qu'elle avait fait, en fait, toute une série de nanas, et notamment des nanas noires, parce qu'en fait elle s'était beaucoup impliquée aussi dans la lutte contre le racisme, donc c'est les époques des années 70. Pour moi c'est une artiste féministe parce qu'elle montre une autre image de la femme. Et d'ailleurs, quand elle a sorti ses nanas, elle a été très décriée, je dirais, par la doxa des sculpteurs masculins qui trouvaient ça scandaleux, surtout qu'elle a fait certaines sculptures qui étaient encore plus marquantes, notamment une femme, des femmes allongées, ou même une femme on rentrait dans son vagin. Donc c'était vraiment un acte très militant. Vous voyez cette sculpture, vous avez envie de danser, vous avez envie de bouger, vous avez envie de sourire. Enfin, c'est vraiment une joie de vivre. Et c'est d'autant plus intéressant que la vie de Nikita Saint-Phal est pas facile. C'est une femme qui a été abusée par son père dans sa jeunesse et qui a su finalement dépasser ça, une forme de résilience, et d'en sortir à partir de là une création dans la beauté. You don't own me. I'm
not just one of your many toys. Moi, j'ai découvert son parcours après. J'ai déjà découvert sa sculpture, donc cette fameuse Bloom Nana Jaune, et c'est seulement après, finalement, que je me suis intéressée à sa vie pour essayer de comprendre d'où venait cette inspiration créatrice si gaie et si joyeuse. Et c'est d'autant plus intéressant quand on regarde son histoire que finalement, elle a vraiment vécu une vie pas si facile que ça. Elle a su surmonter ça.
Et juste vous donner la référence de la musique qu'on entend au fond sonore, choisie par notre réalisatrice Alexandra. You Don't Own Me de Leslie Gore. C'était en 1964, une des premières chansons féministes.
On va venir à votre musique. Vous inquiétez pas, Olivier, c'est prévu. C'est juste un petit peu plus tard. Vous aimez la sculpture ?
Oui, je trouve le commentaire qu'en donnait cette personne excellent,
Évelyne absolument. Meyer.
Très, très, très juste de rappeler la liberté de création et l'engagement et la liberté de ces années 60, 70, 80. Et puis de lier à la cause féministe et à l'engagement de Nikita Saint-Phal. J'ai trouvé un commentaire extrêmement juste. Et puis c'est vrai que c'est une œuvre assez joyeuse.
L'exposition consacrée à Néandertal, notre ancêtre, vous êtes comme nous. Allez, je vais dire comme moi, parce que je ne vais pas parler pour toute l'équipe non plus, je ne sais pas.
Si,
Mélanie, vous avez envie d'y aller ?
Oui, voilà,
aller la voir au Musée de l'Homme ?
Oui, oui, absolument.
C'est à Paris pour essayer de comprendre d'où nous venons et la différence entre nous, Néandertal, Homo sapiens, etc. Oui, ça peut vous intéresser.
Ah, oui.
L'histoire très, très ancienne vous intéresse aussi.
Très ancienne, je suis admiratif parce qu'ils n'ont pas de sources écrites, donc ils ne sont pas obligés de faire de paléographie, de latin, des choses comme ça, toutes choses qui m'occupent longuement. Donc je vais aller voir ça avec plaisir.
Bon, vous savez qu'on est aussi dans un week-end pascal, bien entendu, Olivier Christin. Ce sont aussi des questions liées à la foi, à la religion, dans l'époque moderne en tout cas, qui vous ont intéressé pour votre travail d'historien.
Oui.
Week-end pascal qui peut vouloir dire un certain nombre de choses, mais pour notre chroniqueur culinaire que voici, Jackie Durand, ça peut vouloir dire chocolat. 8h51, bonjour Jackie Durand.
Bonjour Caroline.
Donc chocolat.
Oui, chocolat Caroline, en voilà un délicieux marronnier. Celui des œufs de Pâques, celui des truffes de Noël. Mais pas seulement, il est tous les jours le chocolat, celui qu'on achète à midi, minuit, au sortir du métro ou sur une aire d'autoroute. Il est terrible le petit bruit de la tablette quand on la brise. C'est à la fois une promesse de gourmandise et puis aussi le signal du manque à venir. Pour vous Caroline ou pour moi le dernier cran ? On hésite entre faire plaisir et se faire plaisir, car il en faut des suppliques pour accepter de céder un grand de cacao Cusco Pérou de chez Bona, la vénérable maison de Boiron. C'est peu dire qu'on en baffre du chocolat. À peu près 7 kilos par habitant en France et par an. Faut dire que la chose cacaotée, elle est partout dans notre quotidien. Du petit déjeuner où ils squattent les céréales jusqu'au dernier carré de minuit en passant par le lancinant moelleux au chocolat. Alors à Pâques, comme à Noël, les cartels du chocolat squattent les têtes de gondole de la grande distribution, tandis que l'on picore des petits chefs-d'œuvre qui coûtent bonbons chez les chocolatiers. Mais toutes ces grandes messes, ce barouf mondialisé, ces singeries mondaines qui trop souvent gangrènent la bouffe ne sauraient faire oublier l'essentiel. Nous gobons une truffe, nous sucotons une orangette, nous grignotons un bonbon fourré à la ganache, parce que c'est bon et que ça nous fait du bien pour supporter, aller en vrac, la rouille du quotidien, la fréquentation des fâcheux, le robinet de l'évier qui goûte, la pénurie de PQ, les trains en grève, le chat qui miaule, les voisins qui s'engueulent, le métro qui n'arrive pas, l'autoroute qui n'en finit pas, et puis le vacarme du lundi matin.
Tout ça pour du chocolat donc.
Tout ça pour du chocolat, oui. Au fond, le chocolat ne changera ni le monde, ni le mektoub, Caroline. Mais il aide à les supporter, parce qu'il est à la fois un adjuvant relationnel. C'est rare que votre voisin de bureau fasse la gueule quand vous lui proposez une barre de 75% de Nicaragua.
Sauf s'il n'aime pas ça.
Oui, mais...
C'est rare.
C'est rare quand même. Et puis, c'est aussi un baume pour l'intime. Et il ne guérit pas le mal d'amour, mais il est plus gourmand qu'un Kleenex, qu'un moussoir jetable. Il est aussi efficace et éloquent que Motorhead. Bon, je sais, c'était peut-être un peu violent, une basse, une guitare, une batterie, et fidèle que son chanteur, feu Lemmy Kilmister, qui était porté, lui, sur le chocolat distillé, on va dire. Et puis, il ne faut pas oublier que le chocolat raconte une légende aussi ancienne que l'humanité, celle des êtres humains qui, bien avant la notion de terroir, ne soit mise à toutes les sauces, ont fabriqué de la culture, du savoir-faire avec le ciel, la terre, l'eau et le feu, pour rendre comestibles tous les fruits de la nature. Ainsi, ils ont appris à extraire les fèves de la cabosse, c'est le fruit du cacaoyer. Et puis la suite est comme souvent dans les aliments humains, que ce soit le pain ou le vin, cette affaire de fermentation. Puis on sèche les fèves, on les torréfie, on les broie, on les brasse à 80 degrés avec du beurre de cacao et du sucre. On n'imagine pas forcément toute cette épopée quand on hésite entre deux tablettes. Alors Caroline, les noisettes ou fleurs de sel ?
Là, plutôt fleurs de sel.
D'accord, dans les allées désertes des supermarchés un soir de mars. Alors, rendons hommage au chocolat qui est la soie pour nos papilles, avec une élégante et simplissime recette, c'est le fondant au chocolat de Cécile. C'est dans Chocolat, un livre du chef pâtissier Christophe Adam, c'est aux éditions de la Martinière. C'est simple comme bonjour, comme un bonjour du samedi matin. Il vous faut 200 g de chocolat noir, 200 g de beurre, bon je sais il y a un peu beaucoup de beurre mais c'est Pâques, 4 œufs, une cuillère à soupe de farine, 170 g de sucre semoule, vous préchauffez votre four à 150 degrés, vous beurrez un moule, ça peut être un moule à manquer si vous avez, vous cassez le chocolat en morceaux, vous le faites fondre avec le beurre au bain-marie ou au four à micro-ondes, vous lissez l'ensemble avec un fouet, et puis dans un saladier, vous battez les œufs, puis vous ajoutez la farine, le sucre et votre mélange chocolat-beurre, vous versez le tout dans le moule, et puis vous faites cuire 30 minutes au four, et franchement, c'est bon.
Ouais, j'ai l'impression que même moi, je saurais faire ce gâteau, qui n'est pas un gâteau d'ailleurs, qui est du bon chocolat. Vous êtes très chocolat ?
Oui, bah, et j'ai beaucoup aimé la chronique parce qu'elle souligne l'ingéniosité humaine pour se rendre la vie moins désagréable. Et vous savez qu'il y a toute une dimension religieuse et culturelle de l'histoire du chocolat. On dit que c'était un des produits phares des pays catholiques parce que ça permettait de se faire des gourmandises et de se nourrir sans rompre le jeûne du carême. Et que les religieuses espagnoles buvaient du chocolat très très sucré avec beaucoup de lait et très calorique. Comme ça, c'était un aliment liquide. Il n'y avait pas de produits d'animaux dedans, il n'y avait pas de viande. Ne brisait pas le carême, mais se faisait des petites douceurs. Et c'est ça que j'ai reconnu dans votre chronique. Et là, on est vraiment dans une chose post-confessionnelle, ça fait plaisir.
Un adjuvant relationnel et un baume pour l'intime. Donc c'est vrai que quand vous racontez, Jacques Durand, que le chocolat raconte une légende aussi ancienne que l'humanité, on est dans ce que vous dites, Olivier Christin, à l'instant.
Oui, dans une façon quand même, je trouve très moderne d'arriver à se rendre la vie un peu moins désagréable et à faire de soucis du quotidien l'occasion de plaisir et de plaisir partagé.
Vous êtes plutôt noir les noisettes, ah, fleurs oui. de sel, vous êtes quoi vous ?
Noir, prêt.
Et vous Jackie, parce que vous m'avez posé la question mais je ne vous ai pas renversé la donne.
Ah, je suis noir.
Et vous Mélanie ?
Moi je suis plutôt au lait, mais ce qui m'a beaucoup interpellée c'est le fait qu'il n'y a qu'une seule cuillère à soupe de farine dans votre recette Jackie.
Oui,
c'est bien
point
ça
trop en faux, oui.
Oui
du beurre et du chocolat, ça suffit en soi.
Et je précise évidemment que cette recette complète sera sur notre site franceculture.fr, sur la page de ces matins du samedi. C'est l'heure de votre musique, Olivier Christin. Vous avez choisi cette musique, ça c'était une parmi d'autres. Mais vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi cela. C'est Don't Wanna Fight, Alabama Shakes.
Oui.
Vous nous en dites quelques mots, puis on écoute.
Oui, j'en dis quelques mots. Je vous avais fait deux propositions. Trois. Très sombres d'œuvres réalisées pour le souvenir des victimes du 11 septembre, de Steve Reich et de John Adams. Difficile à couper et très, très sombre pour un samedi.
Voilà, on a choisi la lumière.
Et vous avez choisi. Le soleil et l'énergie. Alors, j'ai choisi ça parce que ce que j'aime dans Alabama Shakes, Don't Wanna Fight, je ne veux plus combattre, ma vie, ta vie, la mienne, il ne faut plus se battre. C'est l'énergie et de montrer que de ne pas vouloir se battre, c'est pas être mou. Don't cross them lines. What you like? Where we both be right. Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride. Don't waste my time.
Don't fight no more. Don't fight no more. I don't fight no more. Finalement, l'énergie nous a servi de fil rouge à ces matins du samedi, hein, de Scolastique Mukasonga, Alabama Shakes, en passant par vous, Olivier Christin, merci beaucoup
merci.
D'être venu. Je rappelle le titre du livre à paraître le 19 avril, Demain la République, ouvrage collectif qui paraîtra aux éditions du Bord de l'eau. Merci Jackie Durand. Ces matins du samedi ont été préparés avec Mélanie Chalandon, aidée de Paul Moisson, réalisée aujourd'hui par Alexandra Longuet à la technique. Et bravo, c'était Inès de Bruyne. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des matins du samedi, même si vous n'êtes pas obligé d'attendre le podcast pour réécouter en streaming l'émission, et ce, dès maintenant. Dans un instant, les informations suivies de répliques par Alain Finkielkraut.
Les matins de France Culture, avec l'appli Audible. Écoutez des livres audio sur votre smartphone. Des coachings ou podcasts, rendez-vous sur audible.fr.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Appel à candidature. Devenez juré du prix France Culture Cinéma des étudiants. Vous êtes étudiant et fan de cinéma? Testez votre sens critique et soutenez un film indépendant. Pour candidater, rien de plus simple. Envoyez-nous, sous forme écrite, audio ou vidéo, une critique du film de votre choix avant le 1er avril minuit à comfranceculture@radiofrance.com. Si vous êtes sélectionné, vous visionnerez 5 films soutenus par France Culture et élirez le réalisateur de votre choix. Remise du prix au Festival de Cannes. Plus d'infos, franceculture.fr.
Bienvenue sur France Culture, il est 9h.